stool.
Ou stool.
À table.
À table.
Produire,
récolter,
transformer,
cuisiner,
transmettre.
La nourriture nous relie et fait vivre nos imaginaires.
Alors écoutons, partageons
et régalons-nous en suivant cette émission proposée par l'association 4K.
Tous les chemins mèneront à l'assiette.
Bonjour et bienvenue à la table de l'association 4 quarts qui vous propose cette émission à la fois parfumée et vitaminée. Oustol est une émission qui convie bonne chair et bel esprit avec des invités de qualité et un sujet. Sujet qui peut être une pratique ou un aliment ou un ensemble d'aliments.
Alors voilà une herbe très très intrigante. L'huître végétale ou feuille d'huître est le nom commun qu'on donne à une espèce qui s'appelle en réalité Mertensie maritime. Comme son nom l'indique, elle pousse sur les côtes et même dans le sable sur les plages. On la reconnaît à ses feuilles vert pâle, larges, un petit peu duveteuses. Elle n'est pas facile à trouver à l'état sauvage ni dans le commerce car on en cultive au final très peu, mais essayez chez votre poissonnier, si vous habitez près du bassin d'Arcachon, vous aurez peut-être un peu de chance. Comme vous vous en doutez, elle a un goût très fort d'huître, c'est vraiment bluffant et du coup ça en fait un bon accompagnement pour tous vos plats de poisson. Par exemple, vous pouvez utiliser les feuilles crues sur des Saint-Jacques, avec tous vos poissons, vos crustacés. Vous pouvez même les mixer pour faire un beurre d'huître à la manière d'un beurre d'herbe et tartiner ça sur du pain pour l'apéro, ce sera absolument délicieux. Ou alors vous pouvez la manger crue, comme ça, juste pour apprécier son goût et cette merveille de la nature. Merci d'avoir...
C'est un extrait de la chaîne YouTube Captain Jules, qui nous présentait là des herbes aromatiques méconnues, une en l'occurrence. Et c'est le sujet de notre émission, au stall du mois, les herbes aromatiques. On va se limiter aux herbes aromatiques, on ne parlera pas d'épices, parce qu'on fera une autre émission, sans doute, dessus, une autre fois. Pour parsemer nos petits plats de ces si précieuses adjuvantes de la cuisine, les marmitonnes du jour sont Pascal Osier, Sophie Couca, Eliane Lardier, Françoise Doucet. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Véronique.
Merci d'être là pour aromatiser nos soupes et nos salades et nos oreilles au passage dans cette émission. Donc, Oustol version 2025. On commence comme toujours par la petite touche personnelle et la question sera un peu précise cette fois. Vous pouvez choisir chacune une herbe aromatique et nous dire pourquoi vous l'avez retenue. Pascal.
Alors, moi, je ne l'ai pas retenu. C'est un souvenir d'enfance du persil plat ou frisé qui avait une odeur particulière. Et dès que je la sentais, ça me donnait la nausée dans la cuisine de ma mère. Et 50 ans plus tard, ben, c'est exactement la même chose. Donc, à la place, je la remplace par la coriandre.
Ah oui, ce qui n'est pas du tout le même goût.
Qui est pas du tout
c'est
pareil,
étonnant, hein, ouais, le persil, ça paraît tellement commun.
Ah ouais, mais je ne sais pas. Je trouve que c'est une odeur particulière. Donc, ça ne passe pas du tout.
C'est comme ça.
Voilà, c'est comme ça.
Eliane.
Moi, c'est le céleri perpétuel. Qui s'appelle H.
Oui, la livèche aussi, enfin, ouais. C'est un peu la
J'aime bien le goût, ça rappelle l'aromagie. On peut en mettre un petit peu partout.
C'est meilleur pour la santé.
Voilà.
Oui, Françoise.
Alors moi, je suis venue avec l'idée d'en apprendre plus sur la coriandre vietnamienne. La coriandre classique, je n'arrive pas à la faire pousser dans mon jardin. Et il faut que je trouve une solution. Donc je suis venue pour ça.
Et j'en dirai un mot parce que, effectivement, c'est une de mes plantes aromatiques fétiches. Sophie.
Moi, je vais faire comme Pascal, mais en sens inverse. C'est un souvenir d'enfance. C'est l'odeur de l'estragon dans une maison de vacances en Vendée où on était. J'avais 5 ans. Pour ça, vraiment d'enfance. Mais c'est un parfum que j'adore. Et vivant en Bretagne, en fait, l'estragon, quand on le fait pousser chez nous, il n'a pas cette odeur-là. Je pense qu'il faut une certaine sécheresse. Et c'est quand même aussi. Moi, les plantes aromatiques, je les aime surtout dans la nature. Parce qu'elles sentent bon, mais elles sentent pas bon sous tout. Elles sentent pas pareil sous tous les climats.
Oui, mais c'est pas les mêmes variétés, je pense, dans la nature aussi, tout simplement.
Non, mais quand je dis dans la nature, pour moi, le jardin, c'est déjà la nature.
Oui, d'accord, okay. Et je rejoins Françoise sur la coriandre, même si je trouve que j'ai un lien un peu ambigu, parce que parfois la coriandre, trop, c'est trop. Enfin, d'ailleurs, il paraît que génétiquement, c'est normal qu'il y ait des gens qui détestent la coriandre. Il y a un léger, il y a quand même quelque chose de savon dans la coriandre. Et donc, au bout d'un moment, j'ai des périodes où j'en ai plus envie, puis des périodes où ça va au contraire être coriandre partout. Alors, on sent déjà qu'on se dirige vers un sujet plein de senteurs et de surprises gustatives, les plantes aromatiques, les herbes aromatiques. qu'on associe parfois aux plantes médicinales, mais leurs vertus, bon, elles sont connues, reconnues souvent. Mais nous, on va s'intéresser évidemment au côté gustatif. C'est quand même l'association 4Quarts. Hein. C'est l'association qui s'intéresse à l'alimentation. Alors, je vais vous poser une première question. Qu'est-ce que ces plantes aromatiques, quelles qu'elles soient, apportent pour vous ?
Je peux commencer en disant que c'est une explosion de saveurs. Ça, c'est de l'intensité aromatique que l'on peut doser comme on veut. Ça apporte souvent une note visuelle aussi, avec des marquants. Des marquants, pareil, que l'on cisèle à la taille que l'on veut. Et ce que j'aime, moi je suis vraiment dans une démarche où, pour gagner en sapidité, mais pas forcément rajouter de sel, je réduis mon sel au maximum, et j'essaye de diversifier, puis de découvrir aussi, parce que c'est une découverte.
Et puis c'est ce qui est étonnant, c'est leur variété aussi. Hein.
Pour moi, c'est très associé. Alors déjà, je fais une vraie différence entre les fraîches et les sèches. C'est pas le même usage, c'est pas pareil. Mais les fraîches sont très associées, là aussi certainement souvenir d'enfance, aux salades. Parce que ma mère faisait des sauces de salade avec beaucoup de ciboulette, de persil, enfin elle variait. Et c'est vrai que quand on fait des salades, les herbes aromatiques, c'est vraiment une façon de les personnaliser, un peu de frais, enfin c'est pas compliqué. Et ça, tout de suite, alors quand on n'aime pas, on n'aime pas. C'est sûr que si on met de la coriandre, quelqu'un n'aime pas la coriandre, là, on met la salade dans
le persil dans le taboulé, pour Pascal, c'est même pas la peine. Quoi.
Voilà. Comme les parfums quand on se parfume, hein, je veux dire, c'est très puissant dans un sens comme dans l'autre. Mais si on vérifie que les convives ne sont pas dans le cas où ils n'aiment pas la plante, eh bien, c'est vrai que ça peut permettre de changer avec les mêmes ingrédients, d'avoir des salades très différentes.
Et on parle salade parce que c'est vrai que les aromatiques...
Pour les fraîches.
Oui, c'est ça, les fraîches. C'est vrai que c'est difficile de les cuire. Enfin, on ne doit pas les mettre, les cuire, on doit les mettre à la fin, si c'est un plat chaud, non ?
C'est pour ça qu'il faut vraiment les séparer, c'est vraiment
sauf
usage.
Sauf l'alivèche, c'est vrai, sauf le céleri perpétuel, Eliane.
Non, mais le céleri perpétuel, dans un potage...
Dans un coulis.
Mais dans les potages, je trouve, c'est très bien. Donc, je mets toujours à la fin aussi.
Dans les gazpacho, les soupes froides, on mérite d'être...
Mais le céleri perpétuel en particulier résiste particulièrement. On peut le même en début de cuisson et il va parfumer. Hein, c'est vrai.
Je ne le mets jamais cuit. En définitive, je l'utilise.
Moi, je le mets dès le départ et ça sent quand même.
Dans les bouillons, je trouve que ça fait beaucoup d'effet.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Moi, j'ai découvert tardivement les herbes aromatiques parce que dans ma famille, on ne les utilisait pas. Donc, j'ai découvert surtout l'estragon, la coriandre et le basilic et j'aime beaucoup, mais ça s'arrête un peu là, quoi.
Oui, on verra après avec les différents usages qu'on peut faire, hein, c'est ça. Le ciboulette quand même, non ?
La ciboulette, beaucoup.
Et la menthe ?
Et la menthe, dans le taboulé.
Oui, non mais il y en a tellement.
Avec la coriandre.
Non mais c'est ça.
Oui, il y en a beaucoup, c'est vrai.
Est-ce qu'on peut citer l'ail aussi ? Je suis une inconditionnelle, j'en mets partout. Pour moi, un gratin dauphinois sans ail, c'est pas un gratin dauphinois du tout.
Mais l'ail, c'est important. C'est clivant.
C'est très clivant.
Il y a un certain nombre de gens qui n'aiment pas l'ail.
C'est fort. C'est très clivant, et moi, je ne peux pas m'en passer.
Oui, mais les gens qui n'aiment pas l'ail, c'est parce qu'ils ont été traumatisés par des gens qui mettaient trop d'ail, par des cuisiniers qui mettaient trop d'ail, non ?
Je sais pas.
Moi, c'était comme ça. Ah bon ? Quand j'étais petite, j'aimais pas l'ail parce que à l'internat, ça sentait. J'étais au dernier étage et l'odeur d'ail remontait du rez-de-chaussée de la cuisine. Et je détestais l'ail. Mais après, quand j'ai appris à l'utiliser dans ma cuisine, maintenant, je suis comme Françoise. Hein,
peux difficilement. Comment on peut aider Françoise pour son addiction à l'ail, justement ?
Ça reste raisonnable, elle met une petite touche.
Et puis tu ne pourras pas m'aider parce que maintenant j'en fais pousser dans le jardin.
Justement, ça nous amène à la question suivante. Ah. Comment est-ce que vous vous fournissez en herbes aromatiques diverses ?
Alors, dans mes addictions, j'ai l'ail et j'ai l'oignon rosé de Roscoff que je fais pousser dans le jardin. Ça demande pas beaucoup d'efforts.
Non, c'est vrai.
Mais ça demande
pas beaucoup d'entretien.
Oui. Peut-être que ça marcherait dans des jardinières, dans des pots, sur
les
le
oignons, je crois pas.
L'ail, je pense. Ça serait dans les bacs, ça peut.
L'ail, je sais pas. Mais je dirais quand même que les oignons et l'ail, c'est pas compliqué à trouver sur les marchés, dans les magasins.
Ah si, l'ail, ça coûte cher maintenant. C'est devenu très très cher. Oui. Ouais.
Mais même, moi, j'utilise, je l'avoue humblement, j'utilise de l'ail surgelé. Ça marche super bien.
On parlera conservation en fin d'émission, mais c'est vrai que ça.
L'ail et l'oignon, c'est pas trop compliqué à trouver.
Non. Quand la partie verte sèche, à ce moment-là, on sort de terre, on laisse au soleil pour que ça finisse bien de sécher. Ça, c'est important pour éviter ensuite que l'oignon ou l'ail pourrisse. Et ensuite, on tresse.
Eh oui.
Et on suspend. Finit par une petite boucle. Mmh.
Ça,
c'est beau. Mmh. Ça peut s'offrir. Mmh. Tous les avantages sont là. Ça se conserve après dans un endroit sec. Dans tous les cas, dans un endroit sec et aéré pour éviter les moisissures. Avant de tresser, même, excusez-moi, juste les frotter un petit peu pour enlever la terre restante. Mmh.
Vaut mieux. Oui.
Puisqu'on est dans le partage des petits trucs pour les gens comme moi qui effectivement aiment beaucoup esthétiquement les tresses d'ail. Quand vous arrivez vers octobre, novembre, dans les marchés, les gens qui vendent de l'ail, souvent ils ont de l'ail, ils ont des tresses d'ail qui sont vidées. Mais en fait, esthétiquement, ça reste très joli. Simplement,
il n'y a pas d'ail dedans.
Et ils vous les donnent. Ils vous les donnent avec plaisir. Donc voilà.
Ouais, mais moi, quand ça ne sert à rien, j'aime pas. La déco qui ne sert à rien, alors là, franchement,
je crois que c'est malgré
c'est du bibelot.
Non, je crois que c'est malgré tout un répulsif à insectes.
Ah bon, d'accord, alors. Ah. Ok. Et sinon, vous avez d'autres. Moi, personnellement, j'ai plein d'herbes aromatiques dans mon jardin, presque toutes, peut-être pas toutes, mais. D'autres cultivatrices, non?
Oui, on a une serre à la maison, donc on cultive des herbes aromatiques.
Et sinon, comment vous approvisionnez-vous?
On peut les acheter.
À la Biocoop.
Ah bah voilà.
Voilà, il y en a beaucoup. Enfin,
faut pas citer de marque, mais.
Il y a des
en magasin coopératif.
Magasin coopératif.
Oui, bio, c'est important. Hein.
Et il y a des herbes aromatiques qu'on trouve aussi l'hiver, comme le thym, comme le laurier. Donc ça reste dans le jardin, le romarin. Donc il n'y a pas besoin forcément de les sécher ou de les.
Le thym, l'hiver, moi, je n'y arrive pas. Hein.
Non. Mon thym ne bouge pas. Romarin, le laurier, j'ai ça dans mon jardin. La sauge que j'avais aussi, elle a disparu, mais pendant un moment, je l'avais aussi en hiver.
Et l'ail des ours en bordure de chemin dans les forêts.
Et il y a une saison, et là c'est la saison, là, en avril, c'est ça, à peu près, au printemps. Mais il ne faut pas le confondre avec la colchique ou le muguet,
ou
qui sont des poisons.
Triquet.
Ah non, mais l'ail triquet, ce n'est pas un problème, parce que
non,
c'est comestible.
Non, ça se mange aussi, bien sûr,
ça a le même goût.
Après,
c'est différent, mais c'est vrai que les deux sont comestibles. Et je parlais plutôt en termes de sécurité, il faut quand même que ça ait une vraie odeur d'ail. Mm. Si la plante ressemble à l'ail des ours, mais qu'elle sent pas l'ail, évitez.
Donc
on peut s'en procurer dans la nature aussi, dans la nature sauvage.
Oui, bien sûr.
Et alors la creste marine, justement, Françoise.
La creste marine.
Qu'est-ce que c'est la creste marine?
Alors la creste marine, c'est une plante de bord de mer. On dit aussi que c'est une plante qui pousse entre les rochers. Fait partie de la famille des apiacées, j'ai regardé ça, donc des ombellifères. Donc ne pas confondre avec la ciguë. je préfère le dire tout de suite. Après, c'est quand même très, d'un point de vue localisation, quand elle pousse à l'état sauvage, dans 90% des cas, elle pousse vraiment en bord de mer, entre les rochers.
Mais il y a quelque chose pour la reconnaître quand même, sans se tromper.
Ah oui, elle est très 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 caractéristique. Hein.
Elle sent quoi?
Elle sent l'anis. Le citron. Elle a une feuille qui est un peu bleu, vert, argenté, un peu grise. Elle peut sentir aussi un peu le céleri. Donc c'est un petit peu ce mélange avec une dominante anis et citron.
Alors on l'utilise pour les poissons.
On l'appelle le perce-pierre. Donc elle est vraiment, elle pousse vraiment dans les rochers, en fait. Alors moi j'utilise pour les poissons. Quand je fais des poissons en pépillote, je mets un petit peu de creste marine. En fait, c'est une plante qui est vraiment, vraiment pas très utilisée, assez méconnue dans ses utilisations culinaires. Et pour autant, on va utiliser la feuille, on va utiliser la fleur et on va utiliser le fruit. Tout est comestible. Donc ça, c'est intéressant. Donc moi, c'est pareil, je suis venue humblement en parler un petit peu, mais sachant que je fais pas le tiers de la moitié de ce que je pourrais faire avec cette plante-là. Vraiment.
Et dis-moi, tu dis qu'il faut pas confondre avec la ciguë. La ciguë, elle pousse aussi en bord de mer?
Non. Oui, mais c'est la même famille.
Les
ombellifères, donc c'est une fleur composée.
Ça ne ressemble pas tant que ça.
La
ciguë, ça ressemble à la carotte. Enfin, c'est plus cet esprit-là.
Mais je suis d'accord.
Même si c'est une ombellifère.
C'est la fleur qui peut porter un petit peu à confusion, mais la feuille n'est pas du tout la même, parce que c'est une feuille qui est charnue, alors que la feuille de la ciguë ne l'est pas.
Je suis d'accord avec Sophie, parce que je ne connaissais pas le nom de cette plante.
Et tu la connais ?
Mais je la connais, parce que j'en ai déjà pris pour mon poisson, mais ça ne pousse pas au bord de mer, parce que moi, j'ai déjà... Je ne dis pas que ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas que. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'en définitive, j'ai découvert cette plante, ce n'était pas en bord de mer.
Donc, on a parlé de la crise marine. Quelqu'un d'autre veut parler d'une plante, d'association ? Alors, pas forcément les conventionnels, justement. Est-ce qu'on peut sortir du menthe étaboulé ? Est-ce que vous avez d'autres idées ? D'association d'une aromatique avec vos plats dans votre cuisine.
L'origan.
Oui.
Avec la tomate, ça va très 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 bien.
Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que le basilic. Voilà. Même si le basilic, c'est super, bien sûr. Hein. Pâte au basilic.
Voilà. L'origan et la marjolaine, c'est aussi des plantes qu'on peut ramasser dans la nature. Et accessoirement, ça fait des très beaux bouquets de fleurs séchées. Il faut juste laisser les couper au bon moment, quand elles sont bien violettes. Et vous faites des... Ça sèche très très bien et après ça tient super bien.
Dans le tzatziki, on peut remplacer justement la menthe par de l'estragon.
Ah oui, de toute façon, l'estragon... Alors là, pour le coup, c'est un classique, mais avec le concombre, c'est parfait. Hein. Et dans le tzatziki, il y a du concombre. Donc, on pourrait parler aussi d'une... Alors, je ne sais pas si on peut la mettre dans aromatique. Moi, je la mettrais dans aromatique. C'est la capucine, qui, avec ses fleurs, en plus, c'est vraiment beau. Là, c'est décoratif pour un plat. Et puis, ça a vraiment un goût. Alors, plus proche de l'oseille, peut-être, du cresson. C'est vraiment... C'est très étonnant, les feuilles de capucine. Ça a vraiment un goût fort, quand même. Hein.
J'avais utilisé les fleurs,
Si, les jeunes feuilles. Bon, c'est pareil, il faut bien les laver. Mais si, c'est très bon. Hein.
C'est la fable ou la feuille qui a un petit goût poivré.
Les deux. Elles ont le même goût. Honnêtement, l'un...
Mais c'est que la fleur et
non, non, la feuille, c'est très bien.
Et les baies. On mettait dans du vinaigre.
Oui. Oui. Bah d'ailleurs, le pissenlit, le seul usage du pissenlit que je trouve intéressant personnellement, c'est les boutons de pissenlit tout jeunes qu'on met dans le vinaigre.
Dans le vinaigre aussi. Ouais.
Voilà.
Alors, une autre plante aromatique, c'est le fenouil qu'on voit pousser partout.
Ah oui, le fenouil.
C'est juste extraordinaire aussi dans les poissons, dans les sauces. Et puis, ce que je ne fais pas, moi j'ai utilisé la feuille, et ce que j'ai appris, c'est que bien évidemment, on peut récolter la fleur et les graines.
Ah bah, graines, c'est formidable,
c'est
dans le poisson.
Exceptionnel.
Quand même.
Bah oui. Exceptionnel.
Surtout graines de fenouil. Ouais.
Exceptionnel. Donc, ne nous brimons pas. Hein. Quand on ramasse comme ça, quand on cueille dans la nature, toujours faire attention. Moi, j'aurais envie de dire prendre une petite paire de ciseaux. C'est vrai pour le fenouil, c'est vrai pour la criste marine, de façon à ne pas dégrader aussi les environnements.
Oui, de ne pas déraciner la
de
plante.
De ne pas déraciner, ça me semble important. C'est vrai aussi sur d'autres, on ne va pas en parler, mais la salicante, c'est pareil. Mais on est un petit peu hors sujet. Mais toujours faire très, très attention. On coupe, en règle générale, maximum un tiers pour laisser les deux autres tiers en place, de façon à ce que la repousse se fasse facilement. Mais si on veut faire attention à notre environnement, puis pouvoir en manger tous les ans, faisons attention à la cueillette.
Je vais parler de la coriandre vietnamienne pour faire plaisir à François.
Avec plaisir, je l'attends.
Ça ne ressemble pas du tout à la coriandre européenne. Mmh. Ça ressemble plus à une renouée avec des feuilles assez fines, un peu longues, qui ont vraiment... Par contre, moi, je trouve le parfum de la coriandre. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Et le gros intérêt, ça se bouture très bien. Le gros intérêt, c'est que ça ne monte pas en graines comme la coriandre européenne.
Ah, oui.
C'est assez rustique. Alors, la seule fragilité, je dirais, peut-être, c'est que si ça monte trop haut, ça peut casser avec le vent. C'est assez fragile. C'est ce qui m'était arrivé une fois. Et ça souffre quand il fait vraiment trop sec, parce que au Vietnam, il pleut.
Ça aime l'eau.
Voilà. Mais chez nous, normalement, elle tient toute l'année. On a de la coriandre toute l'année. Quand on adore ça, c'est quand même...
Elle est jolie.
C'est joli. Il n'y a pas vraiment de fleurs visibles.
Il
n'y
a pas de fleurs, le feuillage, ça fait une belle petite plante.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Tu le gardes dehors.
Ah oui, c'est dehors. Toute l'année, vraiment, il n'y a pas eu de problème. Cette année, en tout cas, on l'a gardé. Il y a eu un moment, il est un peu sec, un peu réduit. Donc ça, c'est vraiment une recommandation. Pour évidemment, quand on fait des soupes asiatiques, tout ce qu'on veut. Hein, tous les plats un peu orientaux, il y a de la coriandre, de toute façon.
Un usage que ma mère avait, que j'ai gardé, mais après, il faut que les gens aiment, c'est de mettre beaucoup d'herbes aromatiques dans une mayonnaise. Et faisait sa mayonnaise au mixeur avec un œuf entier, du blanc et tout. Elle mettait plein d'herbes et pouf, moutarde, œuf, huile, herbes, pouf, elle mixait. Et en fait, alors ça fait une sauce verte, du coup. Donc c'est déjà ça, ce côté un peu joli. Et accessoirement, ça faisait plein de sauces de parfums différents. Alors,
ouais, mais elle mettait une herbe par sauce ?
Bah, ça dépend.
Ouais, ouais. Parce que le problème, c'est que c'est un peu dommage quand on en met vraiment trop, enfin, je trouve. Hein. Quand on mélange trop d'herbes aromatiques, on n'en profite plus trop.
Non, non, bah là, tu peux faire des mélanges ou pas. Enfin, oui, c'est, dire, ça, c'est juste l'idée de, la, de se servir dans des mayonnaises. Et en plus, bon, à l'époque, on n'avait pas les dips et tout ça. Enfin, mais ça se prête parfaitement à cet exercice-là. Et je crois même que vous avez une sauce mayonnaise sans œufs.
Oui, la sauce vegan avec de la coiffaba, là, du jus de pois chiche. Oui, oui, bah, tout à fait pour la partie.
Voilà, tout ça, ça peut être une occasion d'utiliser ces herbes aromatiques.
Bonne idée.
Sophie fait beaucoup de mélanges aussi d'herbes aromatiques séchées, broyées avec du sel.
Et, ben voilà.
Et je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est séché, il y a du sel en termes de conservation, il n'y a aucun souci. C'est sympa pour les petits cadeaux de Noël. Ça donne une sapidité, un aromatique extraordinaire. On fait ce qu'on veut.
Ah oui.
Et le plus important, c'est de tracer aussi ce que l'on fait. Parce que quand on est sur des mélanges après exceptionnels...
retrouver la recette.
Retracer pour retrouver les recettes d'exception qui peuvent se perdre.
Et on essaiera d'en mettre sur le site de 4 quarts aussi, de l'association 4 quarts, car nous avons un site internet. Et donc, on va passer à la dernière séquence, la séquence conservation, puisque dans les plantes aromatiques, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est quand même stratégique. C'est pas forcément évident de conserver des... Enfin, moi, je vois avec le basilic, on l'a en pot, mais bon, vient l'hiver, il n'y a plus de basilic. On en trouve du frais, mais c'est pas très satisfaisant, c'est très cher et c'est bien emballé dans du plastique. Mais bon, il y a quand même des modes de conservation qui se prêtent bien selon les plantes. Donc, dites-nous comment vous conservez et quelles plantes. Pour le basilic, on n'aura peut-être pas de solution, à part la congélation, et encore, ce n'est pas satisfaisant.
J'allais dire, déjà, les plantes, c'est comme les légumes et tout, consommer de saison. Ça, c'est mes évidences. Le basilic, on peut le surgeler. Mais moi, je le garde en le faisant infuser dans de l'huile. Et oui, l'huile, on peut la garder un peu plus longtemps, l'huile au basilic, si on la garde au frigo.
Ça tient. Mais pas si longtemps que ça. En pesto, quoi, mais pas si longtemps
que ça. Non, pas en pesto. Ouais. Je fais infuser de l'huile et parfois de l'huile basilic ail.
Ah oui, mais en enlevant les feuilles, alors.
Et une fois que c'est infusé, j'enlève, je garde que l'huile. Et en fait, c'est une huile qui est vraiment parfumée au basilic. Et du coup, on peut retrouver le goût du basilic dans un certain nombre de recettes.
Ah oui, d'accord. Intéressant. Parce qu'un pesto, on est d'accord, Françoise, il ne faut pas le garder trop longtemps. Hein.
Qu'est-ce qu'on met dans le pesto ? On va faire l'analyse de risque sur le pesto. Qu'est-ce que vous mettez dans le pesto ?
Bah, la plante, beaucoup de plantes, beaucoup de feuilles, de l'huile, du sel, mais bon, peut-être pas suffisamment, et puis de l'ail, enfin, ou du fromage aussi parfois.
Ok, donc l'ail broyé.
Des pains dans la recette de base.
L'ail broyé est bactéricide. La plante en elle-même, il faut la laver avant pour éviter les bactéries de la terre. Après, l'huile est un conservateur. Conserver au réfrigérateur. Vous conservez combien de temps, vous ?
Il est vite mangé.
Il est vite mangé. Ouais. Si c'est conservé au réfrigérateur, 3 semaines, 1 mois, il n'y a pas de souci.
Ah oui, d'accord. Bon, ça va alors. Une autre conservation ? Séchage ? Qu'est-ce que vous faites sécher vos herbes ?
Oui, ouais. Je fais sécher le céleri perpétuel. Par contre, ça garde très, très, très bien le goût et l'odeur. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le laurier aussi, de temps en temps, j'en ai dans le jardin, mais j'en ai aussi séché, le romarin. Donc, pareil, je fais comme un bouquet que je mets à l'envers, que j'attache avec une ficelle et je laisse sécher comme ça.
Je fais pareil avec l'origan, ça marche très bien.
Ça marche très bien.
Et ça garde bien son goût.
Et le romarin aussi, je sèche comme ça.
Pour le persil, quand en pleine saison, j'en ai beaucoup, je le cisèle. Je le mets bien à plat et je congèle. Oui, après, je sors juste la quantité nécessaire pour mettre dans mes plats. Ouais. Parce que je sais qu'à une autre période de l'année, je n'aurai plus de persil, plus visible.
Ça fonctionne bien, tout ce qui est congélation avec la coriandre.
Oui.
La ciboulette, je n'ai pas essayé peut-être.
La ciboulette, la menthe.
Ah oui, tout à fait.
La menthe, fenouil aussi. Oui, ça marche aussi. Mais le persil séché...
Non, ça marche, ça fonctionne pas. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et même l'origan, il faut quand même qu'il ait bien pris le soleil du temps où il a poussé, hein, sinon c'est décevant. Hein.
Autrement, il y en a pas d'odeur. C'est tout ça. Ouais.
Le laurier sauce, il faut le faire sécher parce qu'il me semble que frais, c'est toxique.
Oui.
Et puis, ça pas le, de toute façon, ça n'a pas le même niveau d'odorant.
Oui.
C'est ça qu'il faut quand même retenir.
Toujours séché, oui.
Séché et frais, ce n'est pas le même usage. Et des fois, ce n'est pas le même goût.
La
menthe, par exemple, c'est pas on reconnaît la menthe, mais une menthe séchée infusée, ce n'est pas du tout pareil qu'une menthe fraîche infusée. Il y a une vraie différence. Donc,
Je me rends compte aussi de la diversité des menthes. Dans le jardin, on a de la poivrée, on a de la menthe chocolat, on a de la menthe verte, on a de la menthe, c'est pas tout à fait académique ce que je veux dire, un peu plus velu. C'est vraiment, et le goût est différent aussi.
Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Eh bien, nous n'avons pas épuisé le sujet des herbes aromatiques, mais je vous remercie, on reviendra plus tard sur les épices par exemple, ou d'autres aromatiques. Et on se retrouve très bientôt sur les ondes de Transistor. Au revoir.
Au revoir.
Et dans un mois, c'est une véritable vedette qui va trôner au centre de la table et de notre émission, la pomme de terre. En attendant, vous retrouvez cette émission Oustol sur les ondes de Transistor et de toutes les radios qui voudront bien la diffuser et en podcast sur le site internet de la radio.
Oustol sur les ondes de Transistor
et en podcast sur le site internet.